Donc, je n'ai nullement la prétention de m'affirmer spécialiste de la désertification, ni spécialiste des plantes protectrices ou facilitatrices. Néanmoins, je voulais parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur, qui concerne la désertification. Et je parlerai en partie d'un cas particulier de la Tunisie présaharienne, avec ses milieux steppiques en zone aride et le cas du Sisyphus lotus, c'est le nom latin, et c'est le jujubier sauvage. Donc, on va commencer par quelques définitions. Peut-être nous ne sommes pas tous connaisseurs de la désertification. Et contrairement à ce que l'on pense, la désertification, ce n'est pas l'avancée du désert. La plupart du temps, elle est plutôt conséquence de l'exploitation du milieu par l'homme. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification de 1994 définit la désertification comme étant la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides, sèches, par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Donc là, on entrevoit déjà deux facteurs potentiels qui peuvent déclencher la désertification. Ce sont les variations climatiques et les activités humaines. On a parlé également, donc, dans cette définition de zone aride. Donc, le concept géographique d'aridité est particulier et donc je vais faire quelques rappels ou explorations pour que nous puissions situer de quoi nous parlons. L'aridité, donc, elle se définit comme une évapotranspiration qui est supérieure aux précipitations, c'est-à-dire toute l'eau qui va être évaporée des sols ou transpirée par les plantes sera supérieure à l'eau qui va être apportée dans le milieu, sous forme de pluie par exemple. Les zones arides sont caractérisées par des climats particuliers, avec une faiblesse de précipitations et une grande irrégularité des précipitations. Tout cela associé à des températures élevées. Alors, il y a aussi une définition de l'UNESCO qui rappelle que l'aridité, c'est un concept climatique qui fait référence à un espace. C'est géographique, on parle de zone aride et pas de temps aride. Si on parle d'un moment temporel, là on parle de sécheresse, une période de sécheresse. C'est pas la même chose. Donc les zones arides, ce sont des zones géographiques qui ont donc ces caractéristiques particulières de peu de précipitations et des précipitations irrégulières. On classe ces régions grâce à un indice d'aridité qui est décrit ici selon De Marton. Donc c'est la précipitation divisée par la température plus 10. Et avec cet indice, on peut trouver des régions hyper arides lorsque l'indice d'aridité est inférieur à 5. Par exemple, la Death Valley aux États-Unis. On a des régions arides où l'indice est compris entre 5 et 10. Alors il s'agit en grande partie du Sahara en Afrique. Comme exemple. Et donc, dans ces zones arides, on considère que les précipitations moyennes annuelles sont inférieures à 250 mm par an, oui, annuel. Et que lorsque les précipitations arrivent, elles sont de courte durée, mais de très forte intensité. Peut-être que vous avez déjà vu ou entendu parler des oueds du Sahara, donc qui tout d'un coup sont d'immenses torrents qui se remplissent, suite à des précipitations très fortes, mais instantanées, et quelques heures après, l'oued s'arrête de s'écouler, il n'en reste que la trace. Enfin, on a des régions semi-arides, lorsque l'indice d'aridité est compris entre 10 et 20, ce sont essentiellement les régions sahéliennes. Donc là, on parle, par exemple, du Sénégal. On est dans le Sahel. Voilà. Donc, il faut savoir que de nombreuses terres sont touchées par l'aridité et donc sujettes à la désertification. Le CIRAD estime qu'actuellement 40% des terres émergées sont dégradées, soit 5,2 milliards d'hectares sur Terre. Ce phénomène de dégradation s'étend au point qu'il devient parfois même visible au voisinage des agglomérations. Ça ne touche pas uniquement l'Afrique, bien sûr, mais ça touche toutes les zones arides, sous toutes les latitudes et de tous les continents. Ce qu'on appelle désertification aujourd'hui, c'est donc ce qci est représenté par le schéma ci-contre. Nous avons l'érosion d'un côté, qui peut être éolienne ou hydrique, mais aussi la dégradation SS et stricto sensu, c'est-à-dire la dégradation physique et chimique du sol, par exemple la salinisation qui arrive par un trop-plein ou une mauvaise gestion de l'irrigation ou le labour, qui peut dégrader la structure du sol. Et l'ensemble de ces deux, érosion et dégradation stricto sensu, peut provoquer la désertification. En réalité, le phénomène est réversible. Si on enlève un ou plusieurs facteurs de pression sur le milieu, on peut revenir à un état normal du milieu. Par contre, lorsqu'on a dépassé un certain seuil, on arrive à un état irréversible et là, on parle réellement de désertification. Il en résulte donc un enjeu important, celui de conserver les terres vulnérables. Donc les zones arides, les terres particulièrement de zones arides. La raison pour laquelle on s'intéresse à cette problématique, c'est également parce que le sol, la terre, nous rend des services. Pour développer cette idée, je vous propose d'expliquer la notion des services écosystémiques. C'est une notion qui me plaît beaucoup, je trouve ça beau comme explication. Alors, on considère que le milieu naturel nous offre des services à nous, êtres humains. Alors, il y a des services d'auto-entretien, ce sont les services qui permettent au milieu d'auto-subsister, de subsister tout seul. Donc, la photosynthèse, formation des sols, cycle des nutriments. Et grâce à ces services d'auto-entretien ou services support, on a trois autres services qui sont rendus à l'homme. Des services de prélèvement. Oui, grâce à la nature, nous avons le service de nourriture, on a de l'eau douce, on a du bois, des fibres, des ressources génétiques. On a aussi des services de régulation. Donc la régulation de la qualité de l'air, régulation du climat, de l'érosion, des risques naturels, régulation des parasites. Et enfin des services culturels, les valeurs religieuses et spirituelles, les valeurs esthétiques, la récréation, l'écotourisme. En réalité, toutes ces choses-là sont irréalisables si nous n'évoluons pas dans un environnement naturel finalement qui nous offre ces choses-là. Bien sûr, on en a parlé avec l'agriculture, on maîtrise aussi cet environnement-là. Voilà. Et donc, c'est lors du Millennium Ecosystem Assessment de 2005 qu'ils ont mis en place ce schéma et expliqué cette notion de service écosystémique. À cette occasion, ils ont également redéfini la désertification comme étant, je cite, « le concept utilisé pour rendre compte des formes aiguës de la dégradation des écosystèmes terrestres et des conséquences de la disparition des services qu'ils rendent ». Voilà pourquoi l'enjeu est si grand. Que ferions-nous sans nourriture, sans bois, sans eau douce? Donc, on comprend d'autant mieux l'enjeu de la désertification, que ce soit pour ces services qui sont directs ou indirects pour l'homme. Si on parle en particulier du cas des steppes arides, comme par exemple les steppes tunisiennes dont je vais parler tout à l'heure, elles fournissent à l'homme le fourrage nécessaire pour son bétail. Certaines baies également, utiles en médecine traditionnelle. Du petit bois, que ce soit pour le chauffage, pour la cuisine ou pour les constructions, etc. Mais avec leur dégradation, ces services diminuent et les populations dont la survie dépendait parfois de ceux-ci sont contraints de changer de milieu de vie, voire même de mode de vie. Donc, les facteurs de désertification sont multiples. Il serait trop réducteur et même faux de dire que la désertification est uniquement le résultat de la sécheresse. Effectivement, cette dernière peut avoir des circonstances aggravantes en fragilisant le milieu, mais les facteurs sont avant tout anthropiques. Nous avons par exemple l'agriculture. Donc avec l'élevage et les cultures, on comprend que le cheptel peut piétiner les parcours, peut manger les espèces fourragères des parcours, et tout cela exerce une pression sur le parcours où se déroule l'élevage. Les cultures, également comme on parlait tout à l'heure, ça peut être à cause de pollution des sols, mais également le labour, l'irrigation qui peut entraîner la salinisation des sols, notamment dans les régions arides où l'évaporation de l'eau irriguée va être très rapide. Nous avons l'urbanisation, avec la sédentarisation des populations, les croissances démographiques qui font que les villes s'étendent sur les parcours, sur les campagnes à l'extérieur, et ceci implique aussi des conséquences pour les élevages, puisque du coup les parcours sont réduits, et donc un même cheptel va être disposé sur une surface beaucoup plus petite, et la pression va être encore plus forte sur le milieu. Enfin, on a dit rapidement le climat, mais qui n'est pas le facteur principal, les faibles pluviométries irrégulières, les températures élevées, les érosions, qui impliquent une difficulté de maintien des plantes et de la conservation du sol. Déjà, diverses solutions ont été proposées pour lutter contre la désertification. Des solutions de prévention, de restauration des sols en apportant de l'engrais, du substrat, de la reforestation. Mais également d'autres études sont toujours en cours et elles consistent notamment à utiliser les espèces végétales qui sont appelées plantes nurse. Nurse comme infirmière en anglais. Donc ça va être les plantes qui protègent, on va dire, d'autres plantes. On va y venir. On les appelle également plantes protectrices ou parfois plantes facilitatrices. Alors, est-ce que ça serait un espoir finalement pour les milieux en zone aride, les espèces facilitatrices ? Déjà, qu'est-ce que la facilitation ? On parle de facilitation lorsqu'une espèce sert à l'installation ou à la survie d'une autre espèce. L'idée de s'intéresser aux plantes facilitatrices dans les zones arides, c'est donc de permettre au couvert végétal de persister malgré les fortes pressions anthropozoïques, que ce soit le surpâturage ou l'agriculture. Parce que, en effet, la plante facilitatrice permettrait de créer de véritables nurseries où les plantes les plus vulnérables au pâturage pourraient trouver un espace protégé pour réaliser tout ou une partie de leur cycle végétatif. En servant de refuge, par exemple, contre la prédation, les plantes facilitatrices permettent au couvert végétal de se maintenir après année après année. À l'écran, vous avez une photo de coraux, tout en haut, qui sont des espèces facilitatrices connues pour leur présence indispensable à la survie de nombreux petits poissons. Bien d'autres espèces aussi, des algues, etc. Et en dessous, là, vous avez le jujubier sauvage. C'est une plante caractéristique de certaines steppes tunisiennes, également marocaines, en fait, je dirais du Maghreb. Supposée plante facilitatrice. Je dis bien supposée, parce que j'ai essayé de le prouver, mais j'ai pas réussi. Mais on trouve des effets positifs de cette plante. Voilà. Pour approfondir la question des plantes nurses, je vous propose donc d'observer le cas spécifique de la Tunisie présaharienne. Qu'est-ce que la Tunisie présaharienne, qu'on appelle également Tunisie méridionale ? Alors, il s'agit du sud de la Tunisie, à partir du gouvernement de Gafsa. Alors, vous voyez une espèce de grosse tache bleue au milieu. C'est en fait un lac salé, ce n'est pas de l'eau disponible, pas du tout. Et au-dessus de ce lac salé, vous avez le gouvernorat de Gafsa. Et donc, la Tunisie présaharienne, c'est tout le sud. Et on coupe au milieu du dernier gouvernorat Tataouine, parce que là, c'est carrément désertique. Voilà. Et là, on est donc dans une zone aride. On se trouve alors sous l'isoïette de 200 mm de précipitation par an. On est donc bien dans la zone aride et souvent une grande période de sécheresse qui s'étend sur juin, juillet, août avec des températures records qui peuvent aller jusqu'à 55 degrés. Donc, les causes anthropiques spécifiquement que l'on trouve pour la désertification en Tunisie. Tout d'abord, l'évolution économique. On a progressé de l'économie traditionnelle vers une économie de marché. On a plus ou moins poussé à intensifier l'agriculture. Pour cela, il y a eu des incitations et également des subventions. Ça partait d'une bonne intention, mais ça a complètement changé le mode de vie de certaines personnes, la sédentarisation des populations, etc. L'évolution de la législation. Donc les statuts fonciers, alors qu'en 1963, on passe par une période de collectivisation, où les parcours sont gérés de manière collective, donc pour le pâturage, on se partage les zones et on essaye plus ou moins de bien gérer la ressource en terre. En 71, on passe à une privatisation des terres et un grand développement de l'arboriculture. Donc une grande partie de ces terres destinées au parcours sont maintenant destinés à des investisseurs privés qui en font ce qu'ils veulent et souvent les mettent en culture, ce qui réduit l'espace disponible pour les cheptels et donc augmente la pression de ce cheptel sur l'environnement, sur le milieu. La croissance démographique, oui, ces dernières années, la Tunisie a beaucoup cru, et donc actuellement elle a 10 millions d'habitants et en même temps que la croissance démographique, il y a eu une certaine occidentalisation des modes de vie, si j'ose dire, mais c'est pas vraiment ça. C'est une sédentarisation, voilà, des modes de vie du sud de la Tunisie. Et alors qu'on trouvait encore de nombreux nomades, on n'en trouve plus. Nous avons des nomades, j'allais dire facultatifs, mais c'est par intermittence. Ils ont un campement, ils partent pour une saison, mais ils reviennent toujours au même campement. Mais nous n'avons plus de nomades au sud de la Tunisie, nomades stricts. Donc, avec la sédentarisation, on a une augmentation de l'urbanisation, forcément, on construit en dur. Et donc, à l'endroit où s'installent les populations, on a une extraction accrue du bois, pour la cuisine notamment et les constructions. Deux autres causes, nous avons la culture. On mobilise de plus en plus de terres, puisqu'on reste à un endroit particulier. Il y a des signes chinois qui sont apparus. Bon, la mobilisation des terres, c'est pas fait exprès. On défriche, on laboure, et là où on s'installe, on cultive nos terres autour. Plus comme avant, où lorsque l'on partait sur une saison entière, on n'avait pas son propre champ que l'on suivait toute l'année. Ceci augmente l'érosion, puisque avec le labour, on met les terres à nu, l'érosion éolienne vient et enlève beaucoup de substrat, beaucoup de sol. Les sols sont souvent très sablonneux dans le sud de la Tunisie. Mais également l'érosion hydrique, puisqu'avec les fortes précipitations, d'un coup, on voit des terres arables qui partent par ruissellement. Et donc aussi l'intensification de cette culture avec des intrants, l'irrigation, la mécanisation. Alors ce sont des belles avancées, on pourrait dire, mais finalement on augmente le ruissellement de l'eau, la salinisation et l'érosion. Et enfin l'élevage, donc on est passé d'un élevage complètement extensif, à un élevage modéré intensif, ou parfois extensif, mais sur des toutes petites parcelles. Donc, finalement, on n'est plus dans le nomadisme de l'époque. Il faut savoir aussi que l'agriculture a une place importante dans l'économie du pays, 10% du PIB. Voilà. En plus de cela, un facteur aggravant, le climat de la Tunisie méridionale. Les pluviométries sont faibles et irrégulières, on a de très hautes températures, une forte évapotranspiration. On est dans ce qu'on appelle l'étage bioclimatique méditerranéen aride inférieur. Bon. Alors actuellement, l'état de la désertification en Tunisie. On estime que 21,5% des terres de la Tunisie sont désertiques, dont 17,2% très affectés par la désertification. Et on estime 23 000 hectares qui sont perdus annuellement, de terres arables perdues annuellement. C'est un phénomène qui va en s'aggravant. Donc, une étude a été particulièrement menée sur le jujubier sauvage, s'appelle le Ziziphus lotus, qui est une des plantes caractéristiques de certaines steppes de Tunisie méridionale. Et on a voulu vérifier le rôle qu'avait cette plante sur d'autres espèces. Alors c'est un point un peu familier pour moi, puisque c'est une étude que j'avais réalisée lors d'un stage en Tunisie, justement. Et il faisait partie d'un cadre de recherche de plantes facilitatrices. On y allait un peu par tâtonnement, sur plusieurs plantes qui nous semblaient facilitatrices, et on faisait des études de description de milieu et d'associations spécifiques à d'autres plantes. Il m'a été donc demandé de caractériser des steppes à Ziziphus lotus. Bon, pour la méthodologie, en fait, je vais passer. J'ai réalisé des transects, des relevés floristiques simples, des recherches bibliographiques, mais aussi des calculs d'indices de Jacquard, etc., pour voir les richesses floristiques des sites. Et donc, j'ai étudié, en fait, utilisé quelques techniques qu'on appelle phytosociologique, c'est-à-dire qu'on étudie la sociologie des plantes, comment est-ce qu'elles vont s'associer et pour quelles raisons, quels sont les facteurs qui font que des plantes se regroupent. Rapidement, les principaux résultats font qu'on a découvert que les steppes à Ziziphus lotus n'étaient pas des steppes à Ziziphus lotus. Le Ziziphus lotus était une conséquence de la dégradation et qu'à l'origine, il s'agissait de steppes à Rhanterium suaveolens. Il existe des sites moins dégradés que d'autres et tout cela, en fait, était vraiment lié au pâturage et notamment l'intensité du pâturage. Les conséquences du surpâturage se sont avérées aussi sérieuses que celles du labour. C'est-à-dire que là-bas, lorsqu'un champ est labouré, il ne laisse rien. Donc vous imaginez, après du surpâturage, on passait sur une steppe vide. En fait, on avait l'impression qu'on était dans un désert, mais c'était une steppe. Donc ça, c'était un fort résultat. Et enfin, le rôle du Ziziphus lotus, à proprement parler, il n'enrichit pas le cortège floristique de la steppe. Par contre, il favorise le développement ou la protection de certaines espèces. Il semble favoriser le développement de certaines espèces, notamment trois qui ont été systématiquement découvertes en son centre du Ziziphus lotus. C'est un buisson épineux, donc on le trouvait en son centre et un petit peu aux abords. Salsola vermiculata, Lycium arabicon et Polygonium equisetiforme. Donc tout ça nous a poussé à réfléchir, que pourrait-on mettre en place comme type de projet pour lutter contre la désertification ? Alors, on peut proposer de réduire les érosions éoliennes pour en décourageant la déforestation massive, par exemple, utiliser des eaux de ruissellement en créant des jessours. Donc des jessours, ce sont des cultures en étage, ce qui permet de récupérer l'eau qui ruisselle à chaque fois d'étage en étage, et puis de créer des andains à la fin d'un étage pour pouvoir empêcher la terre arable de s'écouler. On peut essayer de trouver de nouvelles énergies de substitution au bois, gérer les espaces pâturés de manière plus rationnelle. Et pour lutter activement, on peut fixer les sables à l'aide de plantes. Donc notamment le jujubier est une plante qui s'est révélée avoir un très grand système racinaire qui permet la fixation du substrat sablonneux. Et on peut régénérer les parcours par l'apport d'engrais naturels, la plantation de bonnes espèces, et on dit bonnes, c'est-à-dire ce sont les espèces qui vont servir au milieu, comme par exemple des espèces facilitatrices. Pour choisir concrètement un projet, on a observé des projets qui s'étaient passés mais qui avaient échoué. Donc à l'époque, on parlait beaucoup de barrages verts, on a créé beaucoup de barrages verts, mais on s'est rendu compte qu'on essayait juste d'empêcher le vent d'amener le sable sur les terres, mais derrière, on surpâturait. Donc finalement, on crée nous-mêmes le désert. La désertification vient de l'homme. Elle ne va pas venir juste du vent. Le ressemis, alors beaucoup d'espèces qui ont été introduites dans d'autres pays pour restaurer les parcours étaient des espèces introduites, donc pas autochtones, exotiques, et donc qui n'étaient pas adaptées en fait aux cultures, à la manière de fonctionner des personnes qui ne savaient pas ce que c'était, qui l'ont arraché, etc. Donc il y a eu beaucoup de projets échoués. Il y a eu création de codes pastoraux qui essayaient de régir le pâturage entre les personnes, mais comme il s'agit d'un mode de vie un mode de vie très particulier qui engendre même toute une vie sociale et familiale derrière. Le fait d'essayer de le régir par un code juste au nom de l'environnement, c'était très compliqué à mettre en place. Et il y a eu des mises en défend, mais c'était souvent des mauvaises approches parce que c'était ponctuel. On mettait en défend une parcelle en disant « cette parcelle servira un peu de nurserie pour d'autres plantes », mais l'approche n'était pas assez intégrée à l'ensemble en fait de la population, et du coup c'était des échecs. Pour la Tunisie, je dirais qu'on a besoin à la fois de prévention et d'action concrète, mais l'un ne va pas sans l'autre. On doit toujours penser, que ce soit pour la Tunisie finalement ou d'autres zones arides, à une démarche intégrée. Du coup, j'ai proposé deux projets, et je pense que ces projets peuvent être valables pour d'autres types de zones arides, pas forcément avec le Ziziphus lotus, mais avec d'autres plantes que l'on pourrait découvrir comme étant des plantes facilitatrices. Le premier projet serait de mettre en défend des nepkas. Donc les nepkas, ce sont des buttes de sable sur lesquelles poussent les Ziziphus lotus. Il a une manière particulière de pousser, il pousse sur des buttes de sable. Donc mettre en défend cette plante-là en tant que prétexte pour la sensibilisation et la prévention. Alors, s'il y a des gens qui travaillent dans la désertification, c'est vrai que souvent on met en défend, mais les gens ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas et ils ne voient pas. Il faut quelque chose de visible, il faut des clôtures, il faut des informations, et ça ne va pas sans prévention. Le travail de fond dont on s'est rendu compte sur le terrain est vraiment important, c'est vraiment de sensibiliser la population à l'utilité de ces mises en défend. Et aussi la plantation d'arbustes, donc de renchérir le cortège floristique avec des plantes facilitatrices, si on en a découvertes, qui peuvent donc permettre de retrouver un couvert végétal idéal. Bon, bien sûr, il y a des limites à tout projet. Il faut bien choisir la plante, parce qu'on a découvert en Tunisie d'autres plantes qui pourraient être facilitatrices. Bon, les projets sont en cours de recherche, la nitraria, la tamarix. Il faut aussi savoir que la mise en défend réduit l'espace pastoral, donc encore une fois, on augmente la pression pastorale sur le reste. Donc il faut savoir gérer les zones de mise en défend. La plantation de Ziziphus lotus ne va pas sans prévention au préalable. Et il faut généralement collaborer avec l'État. De tels projets sont difficilement réalisables par des ONG seules et isolées. Finalement, j'aimerais ouvrir avec un autre type de milieu, c'est le système oasien. Faire coexister un maximum d'espèces peut permettre un développement optimal du sol, promouvoir la vie, la faune, la flore diverses, et ça peut permettre un maximum de combinaisons. Comment dire, ouais, de combinaisons pour mettre en place des microclimats. Alors je m'explique. Le système oasien est un système étagé. On a l'étage arboré avec souvent un palmier dattier, l'étage arbustif avec souvent du henné ou des grenadiers, des vignes, et ensuite on a l'étage herbacé où là on développe des plantes aromatiques ou alors on fait un petit peu de maraîchage. Ce qu'il faut savoir, c'est que au sein d'un oasis triplement étagé se développe un microclimat caractéristique permettant le développement des espèces les unes à côté des autres. Et là, on touche un peu du doigt la notion de facilitation, mais c'est pas à cause d'une espèce, c'est à cause d'une combinaison d'espèces mises en culture côte à côte. Je trouve que la beauté d'une oasis réside dans cet équilibre, si juste entre les plantes, permettant ainsi de développer le microclimat adapté, qu'on appelle effet oasis. Et c'est la superposition des étages qui crée suffisamment d'humidité, de chaleur, de lumière, propice aux systèmes de culture et d'élevage qui permettent d'optimiser l'espace dans un milieu où les terres fertiles sont rares et souvent un milieu restreint. Donc, pour finir, je pense qu'on peut réfléchir à penser l'agriculture différemment. L'agriculture qui peut être source de désertification dans certains milieux peut et doit être pensée différemment. On peut la penser de manière étagée, en s'inspirant du modèle oasien. On peut penser également à toutes ces plantes nurses, les associations de plantes, l'agroécologie. Bon, l'agroécologie, c'est encore autre chose, mais disons que c'est le principe même de mettre ensemble différentes plantes, les associer pour une efficacité plus probante. Peut-être que c'est un espoir pour notre avenir, c'est encore en marge des pensées agricoles aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'agroécologie, à la permaculture, à ce genre d'association de plantes, ou qui s'intéressent aux plantes nurses. Et j'espère que voilà, que dans les années à venir, on s'y intéressera encore plus. Même si ce matin, on a vu qu'il faut peut-être pas mélanger les espèces, mais c'est la solution que j'ai trouvée. Voilà, en tout cas, je pense qu'on peut penser l'agriculture différemment et plus responsable.